Je reprends aujourd'hui un message, un sermon qui fait partie de la série que j'ai commencé au mois de novembre au sujet de l'Église. Je suis, je crois, si je ne me trompe pas, au 8e message ou 9e concernant la série sur l'Église. Et ce matin, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi. En regardant notre époque, nous vivons aujourd'hui dans une époque où je dirais les notions de gestion, de rentabilité pour la bonne marche d'une entreprise sont introduites dans tous les domaines de la vie sociale. Rentabilité, de gestion, de performance, tout ce que vous voulez, sont introduites dans tout le domaine de la vie sociale. Et ceci nous concerne également dans le domaine dit religieux. Ce domaine n'est pas épargné. Même dans les assemblées, on s'adapte aux normes établies par le monde économique et social. Juste pour vous faire réagir, dans les termes utilisés aujourd'hui, on ne conduit plus une assemblée, mais on la gère. Dans le vocabulaire, bibliquement, on conduit une assemblée, mais l'influence de ce que je viens de vous dire, le monde économique et social, et aussi affecte l'Église, et on gère l'Église comme si c'était une entreprise. Ainsi, les termes anciens, les termes pasteur, surveillant ou évêque, sont devenus de simples titres désignant des postes ecclésiastiques bien définis. Alors, on crée un poste, un groupe de personnes crée un poste, et ensuite, on cherche quelqu'un qui puisse assumer ce poste. Et plus encore, pour vous dire l'impact dans le monde religieux de la mentalité de ce monde, on a tendance à penser en termes de position, en termes de poste occupé, de titre à porter et même de grade à atteindre. Et de cela découle une conception hiérarchique de l'autorité qui n'a aucun rapport avec l'organisation scripturaire de l'assemblée. Vous savez, dans la parole de Dieu, la conception de l'autorité au sein de l'assemblée n'est pas hiérarchique mais fonctionnelle. Attention, la conception du gouvernement, comment doit fonctionner l'assemblée, n'est pas hiérarchique mais fonctionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que, bibliquement parlant, tous les membres s'exhortent et se fortifient mutuellement par les dons accordés par l'Esprit à chacun et sont dirigés par une écoute commune des instructions du Seigneur sous la direction des anciens, des pasteurs ou des évêques. Alors, une question se pose. D'après ce que je viens de m'entretenir avec vous, une question se pose. L'assemblée est-elle devenue une entreprise? Et je donnerai cela, cette question, comme titre de ce sermon. L'assemblée est-elle devenue une entreprise? Alors ce matin, regardons ensemble la conception biblique du gouvernement de l'assemblée locale. Plus précisément, considérons ce que le Nouveau Testament enseigne à propos des conducteurs spirituels d'une assemblée et la nature de leurs tâches. Et à ce sujet, nous allons poser quatre questions. Quatre questions. Comment les conducteurs d'une assemblée sont-ils nommés? En regardant la Bible, quelle est la réponse à cette première question? Deuxième question, comment les conducteurs d'une assemblée sont-ils identifiés? Troisième question, comment les conducteurs d'une assemblée sont-ils formés? terminer, comment les conducteurs d'une assemblée peuvent-ils diriger? Sans tarder, passons au premier point. Comment les conducteurs d'une assemblée sont-ils nommés? Je tiens juste à vous préciser, quand on regarde le Nouveau Testament, l'assemblée locale est appelée dans 1 Pierre 5:2 un troupeau de Dieu. Et dans 1 Timothée 3:15, l'assemblée locale est appelée une maison de Dieu. C'est des métaphores pour qualifier l'assemblée locale. Et donc Dieu ne laisse pas son troupeau sans soin et sa maison sans surveillance. Mais il confie cette responsabilité à des hommes. Et comment sont-ils nommés ces hommes? Les noms, je dirais, par lesquels le Saint-Esprit identifie ces hommes dans le Nouveau Testament ne sont pas des titres officiels, comme je viens de vous le dire, hein, mais qualifient les traits de caractère qui caractérisent ces hommes, hein, que Dieu a appelés. Donc ce sont plutôt des termes qui font ressortir certaines caractéristiques au sujet de ses frères et de leur ministère. Comment peut-on voir ça? Regardons dans Actes, chapitre 20, verset 17 et verset 28. Nous lisons au verset 17 du chapitre 20 de Actes que Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Les anciens de l'Église. Et au verset 28, un peu plus loin, l'apôtre leur dit qu'ils ont été établis évêques. Vous regardez le contexte, il parle bien des mêmes personnes. Au verset 17, il les qualifie des anciens. Et au verset 28, ils sont établis évêques. Et nous lisons pour paître un berger pour nourrir les troupeaux. Donc, dans ce passage, nous voyons donc les anciens, les évêques et les bergers. Ce ne sont pas trois personnes différentes, mais c'est trois noms pour qualifier une même personne. Regardons Tite, chapitre 1, versets 5 et 7, la même chose. Ici, Paul, en donnant ses instructions à Tite, lui dit qu'il faut que l'évêque soit irréprochable. L'évêque soit irréprochable au verset 7. Et il dit au verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens. » Évêque. Donc ici, les anciens étaient donc aussi des évêques. Quelle conclusion retenir dans ces deux passages? Comment sont-ils nommés ces hommes? Ils sont nommés anciens et évêques. J'ai mis égal, ancien, c'est la même chose que évêque. Et donc, ce sont deux termes qui désignent la même personne. Donc, faisons attention. Maintenant, la Bible nous corrige dans notre conception comment sont nommés ces hommes qui gouvernent dans l'assemblée. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien faire remarquer qu'il parle des anciens au pluriel, il parle des évêques au pluriel, il parle des anciens au pluriel. Sauf ici, l'évêque, une seule fois au singulier. Mais dans tout le reste de la Bible, c'est pluriel. Vous savez, dans le monde religieux de notre époque, il y a un évêque pour plusieurs églises. Alors que, d'après ce que nous apprenons du Nouveau Testament, il y a plusieurs évêques dans la même église. Vous voyez la différence? Combien différentes sont les voies de Dieu de celles des hommes? Donc, c'est très important, donc, ancien, évêque, c'est deux noms pour désigner la même personne qui gouverne dans l'église locale, selon ces passages. Regardons maintenant 1 Pierre chapitre 5, verset les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. C'est Pierre qui parle. Ancien, il s'adresse aux anciens au pluriel et ils disent PC. Tiens, c'est le verbe dans Acte 28, qui est exactement le même mot grec, poimaino, le troupeau des dieux. Donc ici, nous voyons donc anciens qu'ils qualifient dans leur fonction de paître le troupeau de Dieu. Donc, on parle de la même personne. Lisez le contexte, c'est très clair. Donc les anciens, c'est aussi les pasteurs ou les bergers. C'est la même, deux noms différents pour indiquer la même personne. Regardez dans Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. C'est exactement, ici c'est la forme nominale de ce même verbe, ici. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que selon 1 Pierre 5, 1 et 2, Éphésiens 4, 11, là aussi, il y a le terme ancien et le terme pasteur sont deux termes pour qualifier la même personne. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ce que nous venons de voir? Ancien, évêque, pasteur désigne donc la même personne. Ce n'est pas trois personnes, c'est la même personne avec trois noms différents. C'est très important de voir ce que la Bible nous enseigne à ces sujets-là. Regardons maintenant quelles sont les significations de ces termes anciens, évêques et bergers ou pasteurs. C'est ce qui nous intéresse maintenant. D'abord, le terme pasteur ou berger, c'est du grec poimen que nous venons de voir, avec sa forme nominale aussi. Ce terme met l'accent sur sa relation, c'est-à-dire la personne, à l'égard des brebis par le biais du travail qu'il accomplit parmi eux. De soigner les brebis, de prendre soin des brebis, de les nourrir. Donc le terme pasteur ou berger met l'accent sur sa relation avec les brebis, en les soignant, en prenant soin d'eux, et en les protégeant et en les nourrissant. Le terme ancien, c'est du grec presbyteros, signifie âgé ou ayant de l'âge. Cette fois-ci, ce terme met l'accent sur la maturité spirituelle et la dignité de la personne. Et le terme évêque, du grec épiscopos, épiscopos, donc il y a épi, sur, et scopos, voir. Et c'est pour ça qu'on dit surveillant. Donc il met l'accent sur la fonction. Donc vous voyez ici, c'est la dignité, la maturité spirituelle. Ici c'est la relation, mais ici c'est la fonction, la responsabilité, l'autorité de celui qui accomplit le travail de surveillant. Vous savez, par ailleurs, quand vous lisez dans Luc chapitre 19, verset 44, et 1 Pierre chapitre 2, verset 12, le mot épiscopos, le verbe ici, est traduit par visiter. Traduit donc par visiter. Et ça nous indique quelque chose que nous apprenons donc que le travail des surveillants va au-delà de réunion de l'assemblée, comme ce matin. Il n'est pas là juste que pour le dimanche matin. Dans la semaine, le travail des surveillants va au-delà des réunions de l'assemblée et donc il va visiter les croyants dans leur foyer. Donc les évêques sont des frères qui veillent à ce que les choses se fassent comme Dieu le veut dans sa maison et à ce que les croyants sont protégés de tout ce qui pourrait nuire à leur santé spirituelle. C'est pour cela qu'ils doivent être des hommes attachés à la vraie parole tel qu'a été enseigné, afin de capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Oui, Dieu a confié la surveillance de sa maison et un jour, ils devront lui rendre compte, ces surveillants, pour la condition de l'assemblée. Et ça, c'est quelle pensée solennelle. Et c'est à cause de cette grande responsabilité envers Dieu que la Bible exhorte dans Hébreux 13, 17 que les brebis doivent obéir et lui être soumis. Comment les conducteurs d'une assemblée sont-ils identifiés? La réponse, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12, surtout, et je vous mets la version Darby, parce que quand je compare toutes les versions, ce qui est proche du verbe grec ici, eido, ce qui traduit littéralement vraiment ce verbe, c'est la version Darby. Et c'est pour ça que je l'utilise. Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent de les estimer très haut en amour à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Connaître. Donc, comment sont-ils identifiés? Donc, l'assemblée doit les connaître ou les reconnaître. Et le verbe littéralement, eido, veut dire percevoir avec les yeux. D'accord, percevoir avec les yeux. Mais comment ça? Juste une illustration. Je vous pose la question, comment un enfant qui joue dans la rue reconnaît-il le facteur? Hein, Mathieu? Comment tu reconnais le facteur? Oui? Comment on le reconnaît? Distribue des courriers. Hein? Moi, quand j'étais jeune, tout de suite, dès que je vois de loin, jaune, un tenu, une petite mobilette jaune ou une moto jaune, avec un grand cartable devant, plein de courriers, c'est le facteur. Et tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? On reconnaît le facteur, comme a dit Stéphanie, par ce qu'il fait, il distribue des courriers, n'est-ce pas? Ah, comme Paul dit ici, nous vous prions, frères, de connaître, de reconnaître. Comment on reconnaît les anciens, les surveillants dans une église? Eh bien, il y en est de même. Comment on reconnaît le facteur par son travail? De même, on reconnaît l'ancien par son travail. C'est simple. C'est très simple. Donc, c'est par le travail qu'il exerce quotidiennement qu'on le reconnaît. Donc, nous pouvons reconnaître quels sont les authentiques bergers parmi nous par l'œuvre qu'ils accomplissent déjà sans avoir le titre. J'aime pas ce que je viens de dire, ce n'est pas des titres. Vous voyez ce que je veux dire? On reconnaît les anciens déjà, même s'il n'a pas le titre d'ancien, par le travail qu'il fait. Comment il agit avec les brebis? Est-ce qu'il a un cœur de berger? Est-ce qu'il est indifférent des sorts des bergers? Est-ce qu'il peine? Est-ce qu'il est à genoux en pleurant pour ses brebis? Voilà, on le reconnaît. Il fait le travail, comme on dit, excusez-moi l'exception, fait le job, hein, sans avoir le titre. Exactement, c'est comme cela, bibliquement, qu'on reconnaît les anciens dans l'assemblée. Comment les conducteurs de l'assemblée sont-ils formés? Être un conducteur dans une assemblée locale n'est pas une position, mais je dirais un travail exigeant et difficile. Donc la question qu'on pose maintenant, d'où viennent ces hommes? Comment sont-ils rendus capables d'accomplir cette tâche fidèlement? La proposition, c'est de dire, oui, il faut qu'ils fassent un institut biblique, il faut qu'ils fassent des séminaires, il faut qu'ils aient un diplôme en poche, et voilà, ils peuvent devenir ancien pasteur. Il y a ceux qui en pensent comme ça. Mais moi, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce que nous pensons, ce que la Bible nous indique. Comment peut-on savoir de quelle formation ils ont pour être qualifiés à être pasteurs anciens? Regardez, la réponse est dans Acte 20, verset 28. Paul ici va de Milet chercher, faire chercher les anciens parce qu'il va dire au revoir aux anciens d'Éphèse. Et nous lisons, à tout le, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Le Saint-Esprit vous a établi évêque. Quelle est la réponse? Comment sont-ils formés? Non pas avec un diplôme en sortant de l'institut, n'empêche que c'est une bonne chose de pouvoir y aller si on a les moyens. Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui désigne les anciens pour l'assemblée. Donc c'est ce que m'enseigne ce passage, c'est le Saint-Esprit qui désigne les anciens pour l'assemblée. Donc si quelqu'un vient vers vous et dit « Oui, j'avais reçu une petite voix qui est quelque part dans ma tête et que je devrais devenir un pasteur, un ancien. » Il faut se méfier. Ce n'est pas ce que je vois ici. Ou quelqu'un qui va dire, et c'est souvent ce qui arrive dans les assemblées en Afrique, il y a quelqu'un d'un jour au lendemain qui se nomme l'homme de Dieu. Comment je peux reconnaître l'homme de Dieu? Tout simplement selon la parole de Dieu. Et à ce titre, parce que ce n'est pas l'objet du message ce matin, je vous invite à regarder 1 Timothée 6:11, 2 Timothée 3:17. Comment reconnaître l'homme de Dieu? C'est par sa réputation. 1 Timothée 6:11, 2 Timothée 3:17. Okay? Et donc, vous regardez qu'il y a des traits qui doivent caractériser la vie de ces hommes qui se réclament l'homme de Dieu. Et si je regarde ce qui est écrit là, je ne vois pas du tout dans la vie de l'homme, alors là, il n'est pas l'homme de Dieu. Vous voyez? Et pareil pour les anciens, les pasteurs, il y a des qualifications sur leurs traits de caractère, et je peux vous dire, la liste est longue, il y en a 20 traits de caractère pour être qualifié ancien. 20 traits de caractère. Il faut le trouver dans 1 Timothée 3, 1 à 7, et dans Tite, chapitre 1, versets 6 à 7, que je ne me trompe pas. Okay? Donc, nous allons voir ces choses plus tard. Donc, j'ai une question qui me pose difficulté. Alors, si le Saint-Esprit qui désigne les anciens pour l'assemblée, alors comment comprendre cette question? Ce passage dans Actes 14, 23. J'ai deux passages qui me posent problème. C'est le Saint-Esprit qui désigne les anciens pour l'assemblée. Et alors, nous lisons dans Actes 14, 23 que Paul et Barnabas firent nommer des anciens. Tiens, c'est pas le Saint-Esprit, c'est Paul et Barnabas. Nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils les avaient cru. Une apparence de contradiction, n'est-ce pas? Ici, n'oublions pas que Paul et Barnabas sont deux apôtres, Actes 14, 14, et leur discernement apostolique leur permettait d'indiquer aux croyants ce que le Saint-Esprit avait choisi comme ancien. Ici, dans le contexte, ils repassent, ils font une seconde visite dans la région. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils constatent des hommes spirituellement équipés qui étaient occupés à paître et à diriger les troupeaux. C'est ce que je vous ai dit. Ils ont fait déjà le job. Ils n'ont pas de titre, mais ils l'ont fait. Et pour les Barnabas, ils repassent une deuxième fois dans la même ville. Ils voient, waouh! Ben, si ce n'est pas eux qui doivent être enceintes, qui d'autres? Et donc, ce qu'il faut retenir, hein, c'était des hommes qui étaient des anciens selon Dieu. Il suffisait donc que Paul et Barnabas les signalent à l'assemblée pour qu'ils soient reconnus par l'assemblée comme anciens. Par vote à main levée. Waouh! Là là! D'où ça sort? Je vous invite à regarder le mot grec qui est nommé ici. C'est le mot « cheirotoneo » et qui traduit le verbe par « nommer ». Et ce verbe veut dire tout simplement « voter à main levée ». Donc c'était clair. Donc, Paul et Barnabas, avec leur discernement apostolique, va signaler à l'Assemblée pour que l'Assemblée reconnaisse comme anciens les personnes désignées par le Saint-Esprit et ils informent l'Assemblée et l'Assemblée donne l'approbation par vote à main levée. Est-ce que c'est clair? Deuxième chose qui me gêne aussi, si c'est le Saint-Esprit qui désigne les anciens pour l'Assemblée, alors comment comprendre Tite 1:5? Tite devait établir des anciens sur l'île de Crète. Et qu'est-ce que Paul lui dit à Tite? Selon mes instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. Tiens, on a dit que c'est le Saint-Esprit et que maintenant c'est Tite. Comment comprendre ça? Tite n'est pas un apôtre, mais l'apôtre Paul lui a écrit d'agir selon mes instructions. Il fait référence, quand il parle de selon mes instructions, aux qualifications que devaient avoir les anciens. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Par ces qualifications, Tite, donc les qualifications, c'est des listes de traits de caractère, il y en a 20, liste après liste, que la vie des personnes qui œuvraient de gens dans l'Église est en conformité avec ces listes. Et alors là, c'est l'indication comme quoi cette personne devrait être ancien. Et donc, on le présente à l'Église et l'Église vote à main levée. Ce qui est formidable, c'est que la désignation du Saint-Esprit et l'approbation de l'Assemblée ne va jamais au contraire. Si l'Assemblée est une assemblée qui marche dans la crainte du Seigneur. L'Assemblée ne fait que confirmer ce que l'Esprit a déjà désigné. Oui, toujours dans ce même sens. Toujours. Donc, par ces qualifications, Tite pouvait discerner ce que le Saint-Esprit avait doué pour être ancien et pour les signaler à l'Assemblée pour qu'ils soient reconnus comme anciens par vote à main levée. De cette dernière, je parle de l'Assemblée. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il y a un chaînon où ce que le Saint-Esprit a désigné va être approuvé par l'Assemblée. Et de quelle manière? Par une vote à main levée. Et aujourd'hui, on n'a plus Tite. Aujourd'hui, on n'a plus les apôtres. Mais c'est le même principe que nous avons. Nous allons regarder les listes, les 20 listes. Nous allons examiner la vie des personnes. Et par rapport à ces listes, que c'est en conformité. Si tel est le cas, ces personnes vont être présentées à l'Église et l'Église, si elle est discernement spirituel, va approuver par vote à main levée. Oui. Si c'est pas lui, qui d'autre qui peut être ancien? Si c'est pas lui, qui d'autre peut devenir diacre? Oui. Dieu, heureusement, nous a laissé un manuel pour nous conduire, pour que nous ne fassions pas n'importe quoi à l'encontre de sa volonté. Comment les conducteurs d'une assemblée peuvent-ils diriger? Ils ont un manuel. Regardez encore Actes chapitre 20, verset 32. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc, en quittant les surveillants de l'assemblée d'Éphèse, l'apôtre Paul leur dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Ce qu'il faut retenir, que pour paître le troupeau qui leur était confié, avec leurs besoins variés, les anciens d'Éphèse avaient Dieu et sa parole. La question, est-ce assez? À votre avis, est-ce que c'est suffisant? Dieu et sa parole. Les besoins sont tellement immenses, les besoins sont tellement variés. Oui, les bergers que le Saint-Esprit élève sont ceux qui dépendent de Dieu et de sa parole pour nourrir les croyants. Ils savent diriger les brebis dans des verts pâturages des Saintes Écritures. Aucune autre chose ne peut vraiment satisfaire l'appétit spirituel et combler les besoins de ceux qui ont le Saint-Esprit. Je dirais, rien d'autre n'est nécessaire. La parole de Dieu et la personne de Dieu est toute suffisante pour l'œuvre au sein de l'Assemblée. Pour nourrir les brebis, mais je dirais la parole de Dieu aussi est pleinement suffisante pour diriger les surveillants, les anciens, les pasteurs dans toutes leurs décisions. Voyez. Il faut avouer quand même que face à des situations difficiles, hein, les anciens seront parfois perplexes. Il y a des cartes très difficiles, parfois on est perplexe. Mais s'ils sont exercés sincèrement dans la prière à connaître la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu ne va pas les laisser comme ça. Il va indiquer, selon la parole de Dieu, qu'il va les convaincre de ce que Dieu veut pour telle situation. Et alors, une pleine conviction de la complète suffisance de la parole de Dieu marque les assemblées de Dieu. Et je remercie le Seigneur encore qu'il me place dans une assemblée où on veut honorer la parole de Dieu. On veut enseigner la parole de Dieu dans nos prédications, dans nos enseignements. Et non seulement l'enseigner, mais vivre aussi ce que nous enseignons. Ce qui nous amène au dernier point. Ils ont un manuel, mais ils sont aussi des modèles. 1 Pierre 5,3 « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Oui, je pense toujours à ce que me disait Monsieur le pasteur Bixby, nos aînés, m'a toujours rappelé. Et ça, c'est resté dans mon esprit, c'est pour ça que je vous le cite. Il disait, le niveau de spiritualité d'une assemblée, là, ne s'élèvera jamais au-dessus de celui de ses anciens. C'est une parole pleine de sagesse et vraie. Le niveau de spiritualité d'une assemblée locale ne s'élèvera jamais au-dessus de celui de ses anciens. Et c'est pour cela que je comprends mieux maintenant. Pourquoi les qualifications que les surveillants, les anciens, les pasteurs doivent posséder sont si élevées? Si élevées. Je vous rappelle encore, regardez 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7, et Tite chapitre 1, versets 6 à 9. Les 20 qualifications tellement si élevées. Pourquoi? Parce que si on veut une assemblée qui honore le Seigneur, il faut que ces anciens soient déjà un exemple. Et c'est pour ça que Dieu a mis ces critères si élevés. Parce que Dieu veut que la vie de ses frères soit un exemple à imiter pour les autres. Et ce qu'il existe des anciens est vraiment ce que tous les chrétiens devraient avoir. Je vais vous montrer la semaine prochaine. J'ai passé du temps à le chercher. Mais tous les vrais traits de caractère exigés pour être ancien et diacre, c'est la même chose exigée pour tous les hommes et les femmes selon le Nouveau Testament. Et c'est pour ça qu'on comprend mieux qu'on peut voir les anciens déjà dans l'assemblée parce que ce sont des hommes parmi ceux qui étaient là avant, qui ne s'élèvent pas au-dessus des autres. Ils étaient les hommes comme les autres. Mais ils ont servi. Et leur vie, c'est en conformité avec ces listes. Et c'est pas si facile, comme on regarde un facteur, on sait comment le reconnaître, on reconnaît comment un ancien. Si ce n'est pas lui qui dort, si ce n'est pas exact, si ce n'est pas lui qui dort, tout est clair. Les 20 traits de caractère exigés pour être ancien et diacre sont les mêmes 20 traits de caractère exigés pour chacun de nous, tous, hommes et femmes. Et c'est ce que je me répète. Présenter dimanche prochain avec un tableau devant vous, chacun. Et donc nous sommes responsables. Nous sommes responsables de notre vie devant Dieu. Nous ne le faisons pas pour devenir ancien ou en diacre, mais nous le faisons pour obéir à Dieu avant tout. Et nous sommes dans la responsabilité de le faire. Et merci Seigneur pour sa parole de nous éclairer que c'est l'exigence est élevée pour les chrétiens parce qu'ils doivent être des modèles. Et vous savez, Dieu veut à ce que nous soyons tous des troupeaux, des bergers qui vivent d'une vie en conformité à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on n'enseigne pas seulement, mais on vit ce qu'on enseigne et on les partage après. Esdras avait le même principe dans l'Ancien Testament. Je voudrais m'arrêter tout simplement en résumant les pensées que nous venons de voir, que l'Église n'est pas une entreprise. J'espère que vous l'avez bien compris. Concevoir une Église de telle manière, c'est une entrave, une désobéissance à la parole de Dieu. Oui, Dieu nous donne dans la Bible, le Nouveau Testament, les principes divins pour le gouvernement de l'Assemblée à travers le ministère des anciens, appelés également des surveillants, des pasteurs. Retenez que ces termes ne sont pas de simples titres qui désignent des postes ecclésiastiques bien définis. Non ! Il s'agit de service, il s'agit d'une vie exemplaire et non pas un titre. Comme berger, ces hommes ne doivent pas être derrière le troupeau pour les pousser, mais ils doivent être en avant des brebis comme des modèles. Ils doivent être en avant comme des modèles et non pas derrière, pousser. Parce que l'exigence n'est pas seulement pour eux, mais c'est pour tous les hommes et les femmes. Oui, des qualifications sont données dans la parole de Dieu pour assister l'Assemblée à reconnaître celui ou ceux qui peut être ou peuvent être anciens. Mais ces critères aussi de qualification, c'est pour que l'homme lui-même y trouve l'idéal de vie qui doit être le sien par la grâce de Dieu. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle tous. Et Dieu voulant, si le Seigneur ne revient pas, dimanche prochain, nous continuons la suite de ce message pour voir bibliquement combien nous sommes responsables devant Dieu d'avoir une vie exemplaire, non pas une vie quand on est en culte avec les frères et sœurs et notre vie quand on est en dehors dans le monde séculaire. Non. Notre vie, nous devrions être la même personne, peu importe où nous nous trouvons, celle qui rayonne du Seigneur, celle qui vit dans la crainte du Seigneur, et celle qui vit en conformité avec ce que le Seigneur nous donne.